Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, depuis 1867, le Québec perd constamment du poids à la Chambre des communes. Il pourrait passer bientôt de 78 à 77 sièges en raison des variations démographiques. Dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon nous parle de ce lent déclin, mais a une proposition hardie qui s'inscrit dans une logique fédérale. Que le gouvernement Legault insiste pour que ce soit l'Assemblée nationale ou l'exécutif québécois qui choisisse les parlementaires de l'autre chambre, le Sénat, où le pourcentage du Québec est fixe et assuré. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'air.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Et bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Cours ECR, éthique et culture religieuse, va être remplacé. On en a beaucoup parlé depuis dimanche. C'est efficace en faire des conférences de presse le dimanche?
Oui, pourtant, Dieu sait que en théorie, on se dit le dimanche, on est occupé à autre chose, mais c'était quelque chose de tellement attendu. On est demeuré attentif en raison de, je dirais, l'importance de ce changement de cours. Donc, plus d'éthique et culture religieuse, mais bienvenue au cours culture et citoyenneté québécoise. D'abord, il y avait un faux suspense pour le nom du programme, puisque M. Legault, dans son discours d'ouverture, dans le fond, il avait dit que ce serait axé sur la culture et la citoyenneté québécoise.
Ben oui,
c'est exactement ça le titre seulement du cours. Généralement bien accueilli. Moi, je te dirais que je suis plutôt positif aussi par rapport à ce que j'ai entendu. Rappelons donc aux auditeurs que les axes principaux, donc culture, citoyenneté québécoise, dialogue et pensée critique, là-dedans, il y aura donc des éléments d'éducation numérique, notamment à l'égard des réseaux sociaux. Il y aura des pans d'éducation à la sexualité, parce que présentement, à l'école, il y a du contenu qu'ils doivent donner en éducation en matière de sexualité, sauf que c'est pas dans un seul cours. Hein. C'est comme saupoudré à travers le reste. Il y a aussi une partie pour que les jeunes comprennent les institutions québécoises aussi, comment fonctionne la démocratie au Québec. Donc, je pense que ça ratisse quand même assez large, des éléments importants, des éléments qui se retrouvaient peu dans le contenu enseigné.
C'est pas ça que les oppositions disent, Rémi, hein?
Mais c'est ça, et en même temps, je te dirais premièrement, là, le point qui m'a agacé, c'est le fait qu'on ne sache pas qu'est-ce qui va être enseigné au primaire, qu'est-ce qui va être enseigné au secondaire, parce que tout ça, ça sera éparpillé là, dans le parcours scolaire des jeunes allant du primaire au secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en premier, de quelle façon? J'ai été un peu étonné qu'on soit pas capable de rien dire à ce sujet-là, outre de dénoncer les principales axes, les principaux axes, dis-je bien. Donc, alors, est-ce que on sera en mesure avant le printemps, parce qu'on dit que là, il y aura la rédaction comme telle du contenu du programme et que ce sera présenté au printemps. Il semble qu'on devrait savoir avant ça, à tout le moins, de quelle façon on va mettre les éléments en place dans le parcours des jeunes. Je sais que les syndicats d'enseignants, notamment, qui ont réagi.
En tout cas, les oppositions, Marois Risky trouve que c'est 4,30 sous pour une pièce parce qu'il y a déjà beaucoup des thèmes qui sont là, qui sont déjà abordés. Il y a Christine Labrie de QS qui dit la même chose et qui ajoute que est-ce qu'on n'a même pas d'indication sur le temps qui va être consacré à tout ça. Puis peu de ressources pour former au nouveau programme. Il y a juste le Parti québécois qui dit que c'est une victoire du Parti québécois parce qu'on le dit depuis longtemps. Mais à part ça, je veux dire, les oppositions trouvent que c'est...
Les partis d'opposition ont
je te c'est dirais, de la
tellement raison de dire qu'il y a des éléments qui sont déjà enseignés. Mais je veux dire, si on prend par exemple l'éducation de la sexualité, c'est clair que même si c'est un peu enseigné, c'est un peu n'importe comment... sans planification précise, sans que ce soit ramassé dans le contenu, par exemple, d'un cours. Donc moi, tu vois, ça, je trouve que à cet égard-là, même si je comprends, on réinvente pas la roue, sauf que ça sera bien que ce soit davantage localisé, je peux ainsi dire, dans un cours et avec un contenu plus précis. Mais encore faut-il, comme je disais, qu'on présente là les étapes, là, ouais. Qu'est-ce qui sera enseigné, quand au primaire, etc. Mais quand même, je trouve quand même un assez bon pas en avant, mais ça demandera beaucoup de précision, par contre, dans les prochaines semaines, prochains mois.
Mmh. C'est un échec, je pense, de la tentative de faire un cours sur la culture religieuse, de passer de la catéchèse, donc où c'est prescriptif, là, la religion, tu dois croire ça, à un cours de culture religieuse. Puis là, ce qu'on va perdre au bout du compte, c'est peut-être que les jeunes Québécois connaîtront pas ou comprendront pas pourquoi il y a tant d'églises au Québec, pourquoi il y a tant... Il y a quelque chose, tu sais, comment expliquer... l'histoire sans parler des religions, que ce soit... moi, je trouve que c'est ça qui manque. J'espère que ça va être bonifié un peu en histoire, qu'on fera pas juste de l'histoire politique, qu'on fera de l'histoire aussi des mentalités, parce que sans ça, il va manquer une clé de compréhension pour les jeunes du monde d'aujourd'hui, que ce soit le choc des civilisations contemporaines ou l'évolution même du Québec. Et comment comprendre le Québec sans le catholicisme? Écoute, je me pose...
Oui, mais et Jean-François Roberge et son entourage disent qu'il y aura du contenu sur les religions.
Ouais.
C'est pas complètement évacué. Et moi, je te dirais de mon côté, je suis d'accord avec toi, sauf qu'en même temps, pour avoir vu parfois là, ce que mes jeunes, notamment...
Ah, c'était poche, comme tu dis.
je trouvais que c'était... Écoute, parce que je trouvais que c'était comme si on découvrait les autres cultures, mais uniquement par le prisme de la religion, ce qui n'est pas correct non plus.
Non.
Donc, il faudra que ce soit... partie intégrante, là, l'élément
mais c'est pour
religion,
ça que je dis que c'est l'échec. C'est pour ça que je dis que c'est l'échec. C'est qu'on a tenté de faire un cours de culture religieuse, puis on n'a pas été capable d'aller au-delà des espèces d'images fixes ou crispées des religions. Tu sais. Ah oui, la musulmane apporte le voile. Ben non, il y a des musulmanes qui n'en portent pas. Tu sais. Ouais. En tout cas, c'est ça.
Parce qu'il fallait justement pas que ce soit un cours de stéréotypes non plus.
Ben oui, c'est ça, c'était un peu ça, le problème. Allons-y avec notre deuxième sujet, le projet de loi créant un tribunal spécialisé en matière de violence conjugale et violence sexuelle.
Oui, parce qu'on est lundi, donc on aime le lundi regarder qu'est-ce qui se passe dans la semaine à l'Assemblée nationale. Et il y a consultation, donc demain mardi et mercredi, le ministre Simon-Jolin Barrette avec son projet de loi 92. Donc, il y aura des intervenants qui vont venir s'exprimer sur le contenu du projet de loi qui vise à créer un tribunal spécialisé en matière de crimes sexuels et de violences conjugales. Et il y a une absence qui est remarquée déjà, c'est qu'on a constaté que la juge en chef Rondeau, Lucie Rondeau, de la Cour du Québec, ne fait pas partie des intervenants qui vont s'exprimer en consultation en commission parlementaire. Et je comprends que c'est plutôt rare. En fait, je me rappelle pas que un juge en chef de la Cour du Québec est parlé en commission parlementaire.
Mais c'est normal. C'est normal. Les juges ne se mêlent pas du processus législatif. Je comprends pas pourquoi Mme Rondeau est allée dire par la voix de sa porte-parole là, à une de nos collègues journalistes qu'elle souhaitait témoigner. J'ai jamais vu ça, comme tu dis. J'ai pas souvenir.
Oui, c'est ça.
Puis en plus, je vais te dire une chose, j'ai animé la rentrée judiciaire le 10 septembre ici à Québec, du barreau de Québec, puis Mme Rondeau était là, puis on a discuté, puis j'y ai même posé la question. Est-ce que vous allez venir en commission, tu sais, parler de vos réticences à l'égard de la création d'un tel tribunal? Elle m'a dit, ben non, un juge, ça va pas en commission. Je le dis publiquement, là, mais c'est ça qu'elle m'a dit.
Ben oui.
Écoute, je ne comprends pas cette sortie-là encore aujourd'hui. Ça fait deux sorties, celle sur la langue, celle sur... c'est drôle, c'est les juges. Habituellement, on accuse les politiciens, les élus, de vouloir intervenir dans le travail du judiciaire. Mais là, c'est le judiciaire qui veut comme intervenir dans le législatif et dans l'exécutif. Je ne comprends pas.
Et par ailleurs, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été consultée parce que il y a eu des discussions entre le gouvernement et elle dans les derniers mois. Et il y a eu un rapport, le Rebâtir la confiance, qui a été rédigé, la conclusion du rapport est de créer un tribunal spécialisé.
Exactement.
Et elle a fait partie de ces discussions-là. Elle a inscrit une dissidence là, à l'égard de la création du tribunal spécialisé. On comprend que de ses réserves, notamment, et moi, je suis pas d'accord avec elle, mais bon, que le fait de créer un tribunal spécialisé, c'est comme si ça créait un biais, que les causes qu'elle est entendue par ce tribunal-là allaient comme forcément donner raison aux victimes. Ce qui, à mon avis, c'est pas justifié. On peut très bien créer un environnement qui facilite les témoignages, qui facilite le parcours des victimes. Elles ont été tellement nombreuses au cours des dernières années à dire que
Mais à ce compte-là, Rémi,
elles ont été découragées parfois.
Il y a une chambre de la jeunesse, là. Ça veut-tu dire que par définition, les jeunes sont considérés comme des victimes et ils sont déjà considérés comme celles qui ont raison? Non.
Ben non, justement.
C'est ça. Alors, non.
Alors, il y a des vraiment étrange, en fait, là, il y a une bataille en coulisses là, qui se déroule entre le juge en chef et le gouvernement. Et par ailleurs, je voyais dans l'article d'une collègue journaliste de la presse canadienne.
Jocelyne Richer, pour ne pas la nommer.
C'est ça, elle a refusé une entrevue, mais pourtant, elle en a donné. Elle a refusé une entrevue prétextant justement la séparation du pouvoir judiciaire et politique, et pourtant, elle en avait donné précédemment des entrevues dans lesquelles elle exprimait ses réserves. Donc, c'est pour le moins particulier.
Oui.
Et chose certaine, on va suivre la consultation parce que ce serait intéressant de voir des regroupements de victimes, mais aussi, là, par exemple, la police de Québec, la police de Montréal, la Sûreté du Québec, le barreau qui vont participer à la consultation dans les deux prochains jours. Alors, on va suivre ça avec intérêt.
Très bien. Ben merci beaucoup, Rémi Nadeau, puis on se reparle demain.
À demain.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
C'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Mais bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On a deux thèmes aujourd'hui. Le premier, c'est la carte électorale, donc le poids du Québec à la Chambre des communes. On sait qu'Élections Canada propose de passer de 342 sièges de députés à 342 sièges de députés en 2024. Et en se basant strictement sur la démographie du Dominion, ben le Québec perdrait un siège. Et là, François Legault et le Bloc québécois notamment réclament le maintien du poids du Québec à Ottawa. Alors, qu'est-ce qu'on en dit sur le plan du droit?
Ben que le Québec décline dans la fédération, là, c'est une constante, notamment pour des raisons démographiques depuis 1867, mais aussi par la création de nouvelles provinces. On avait un poids politique en 1867 là d'à peu près autour de 35% des sièges. Là, on se maintient à 23, là, un petit peu aidé par la dernière loi qui avait été adoptée sous le gouvernement Harper. On est dans un dossier où il y a un déclin. Il est écrit. Il s'agit peut-être de débattre sur la vitesse avec laquelle il s'opère, mais il est un peu inévitable. C'est-à-dire que sur le plan juridique, le Canada de 1867 a été fondé sur ce principe de représentation proportionnelle des provinces. Bon, sans tomber dans le long cours d'histoire, il faut se rappeler qu'avant, le Canada uni, 1840 à 1867, on avait essayé autre chose dans le but de diminuer le poids politique des francophones. Les francophones étaient majoritaires dans ce Canada uni. On avait uni de force le Haut et le Bas-Canada. Oui. Et on avait, à l'époque, mis un principe de représentation égalitaire. Donc, la petite Ontario de l'époque, moins populeuse, avait le même nombre de sièges que la très, très populeuse province.
Province du Bas-Canada.
Ou du Québec. Là. Tout ça, c'est des synonymes suivant la période dans laquelle on se situe exactement. Et très rapidement, autour de 1850, le poids démographique du Bas-Canada, du Québec ou du Canada-Est, appelez-le comme vous voulez, a basculé. Et à partir de là, ben, il y a des voix dans le Canada ontarien, si je peux dire, George Brown, Lee Clear Grit, qui se sont mis à revendiquer vigoureusement ce principe de représentation proportionnelle.
Donc, rep by pop.
Le rep by pop. Il est inscrit dans la Constitution. Donc, oui, comme tout ce qui est dans la Constitution, ça peut des fois peut-être être aménagé de façon raisonnable, si je peux dire, mais à terme, la carte électorale peut pas dire demain matin, le Québec, c'est 25 %. Pour ça, il faudrait un amendement constitutionnel.
Ben, l'accord de Charlottetown le proposait. Là.
Oui, c'est ça. Il faudrait l'inscrire.
En 1992, tout le monde a oublié ça. Mais
il faudrait... Tout à fait. En 92,
on disait, le Québec, toujours, ça doit toujours conserver 25 % du poids politique à la Chambre des communes.
Donc, le principe,
mais
c'est...
Mais ça n'a pas été adopté. Ça.
Représentation proportionnelle, à moins que dans la Constitution... on inscrive autre chose. Par exemple, pour les très petites provinces, on a l'article 51A qui dit, grosso modo, qu'une province ne peut pas avoir moins de députés à la Chambre des communes que son nombre de sénateurs. Mmh. Ça peut être utile pour les procédoires. Donc, il y a moyen de faire des exceptions, mais les exceptions, une vraie exception significative, il faudrait qu'elles soient inscrites dans une réforme constitutionnelle. Et donc, on se retrouve dans une dynamique où le poids du Québec, il va décliner. On peut jouer un peu sur la vitesse, sur l'ampleur. Puis attention, il y a des, on peut, faut pas se bercer d'illusions. Là. Il y a une illusion là qui consisterait à croire que si on maintient le 78 sièges, on maintient le poids politique du Québec. C'est plus complexe que ça parce que ce qu'on voit pour ménager la chèvre et le chou, c'est qu'on maintient le nombre, mais on augmente le nombre total de sièges à la Chambre des communes. C'est une façon d'acheter la paix. Mais ça, c'est aussi une demi-solution.
Il y a une dilution à ce moment-là.
Vous gardez les 78 jobs de députés à Ottawa, mais en vérité, leur influence diminue parce que le nombre total de sièges, lui, il augmente. Donc, on est dans un combat qui, bon, je comprends pourquoi le Bloc québécois, le gouvernement Legault, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale vont le mener, c'est très bien. Mais soyons réalistes, l'ampleur des gains possibles, les gains sont faibles, les gains sont incertains, puis sont relativement temporaires. Parce que d'une réforme à l'autre, le recul un peu moins pire, pardonnez-moi l'expression, qu'on pourrait encaisser cette fois-ci, ben on risque de l'encaisser à la prochaine réforme. Et c'est pour ça que moi, ce qui me dérange dans ce débat-là, c'est de voir toute l'énergie et tout le crédit politique qu'on investit sur un combat qui a peu de chances de produire des résultats importants pour les intérêts du Québec, alors que si on est tant préoccupé, et je pense que c'est important de l'être, par la représentation du Québec au Parlement fédéral,
ouais. Bien,
il y a 24 sièges en ce moment qui dorment, là. Il y a 24 sièges
parce
au Sénat.
Parce que le Parlement fédéral est constitué de deux chambres.
Exactement.
L'autre chambre étant le Sénat.
Donc, il y a la Chambre des communes. Ça, c'est compliqué. C'est le rep by pop. On est prisonnier d'une certaine démographie. Au Sénat, c'est différent.
Ben oui.
Et au Sénat, on a actuellement...
C'est deux modes de représentation très différents.
Et avec respect pour la compétence, c'est pas ça qui est critiqué des 24 sénateurs québécois qui siègent actuellement. Il n'empêche que... tous ces sénateurs ont été choisis unilatéralement par l'exécutif fédéral. Donc, évidemment, en politique, il y a un principe qui veut qu'on crache rarement dans la main qui nous nourrit. Si je dois mon travail à un gouvernement central, il est possible que j'épouse les valeurs, les principes, la vision politique du gouvernement central. À l'inverse, si, comme c'est le cas en Allemagne, par exemple, dans le fédéralisme allemand, les sénateurs qui représentent les provinces, si vous voulez, l'équivalent des provinces en Allemagne,
Länder, ouais.
Mais sont désignés par les Länder, par les entités fédérées ou par les provinces. Mais là, ça change profondément la nature politique.
Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on pourrait finalement donner une légitimité plus grande aux 24 sénateurs en faisant en sorte qu'ils soient nommés par l'Assemblée nationale. Puis comme ça, on pourrait s'assurer d'un poids politique plus grand à Ottawa?
La ministre Sonia Lebel a négocié pour le dernier juge nommé à la Cour suprême du Canada un mécanisme. C'est un bidule, c'est pas inscrit dans la Constitution, c'est une entente fédérale-provinciale, mais en attendant, ça peut faire la job, là.
OK.
Donc,
là, c'est la Cour suprême.
Oui, en effet.
On pourrait l'appliquer au Sénat aussi?
Bien, ça serait si simple. Si ce que Sonia Lebel a réussi à négocier pour le choix d'un juge à la Cour suprême, on l'appliquait pour le choix des 24 sénateurs québécois au Sénat, on calque la solution. Donc,
rappelons ce qu'elle a négocié.
Donc, grosso modo, juridiquement, ce sera toujours le GG, le gouverneur général, qui va nommer le juge à la Cour suprême ou le sénateur québécois. Mais ce gouverneur général, il agit sur recommandation.
Voilà.
Donc, la recommandation, en ce moment, elle vient de Justin Trudeau. Mais si Justin Trudeau, il disait, moi, si l'Assemblée nationale me dit qui choisir lorsque vient le temps de choisir un sénateur du Québec... ou si le gouvernement du Québec me dit qui choisir, je vais respecter cette recommandation-là et la relayer au gouverneur général, bien, tout à coup, on modifierait profondément la représentation.
Il y a des précédents pour le lieutenant-gouverneur. Martial Asselin, par exemple, était celui qui avait été recommandé par Robert Bourassa pour devenir lieutenant-gouverneur.
Oui, et puis dans les années Meach, c'est-à-dire au moment où Meach était une entente, mais pas encore ratifiée, l'Alberta organisait son propre système électoral pour recommander au premier ministre.
Mais encore, il y a eu une élection sénatoriale.
Oui, mais elle, je ne suis pas sûr qu'elle va...
Lundi dernier, en Alberta...
Oui, mais...
Sauf que c'est des sénateurs qui ne sont jamais nommés.
C'est ça. Alors qu'à l'époque du gouvernement Mulroney, le gouvernement Mulroney jouait le jeu. Et donc, là,
ça n'a pas créé d'espèce de... comment on dit? Une convention. Ça n'a pas créé de convention constitutionnelle.
Ben, pour que l'usage s'inscrive, il faut qu'il persiste dans le temps et surtout qu'on puisse montrer que les gens se sentent obligés. Mais avant d'en arriver là, il faut commencer par avoir l'usage. Et pendant qu'on se bat, pourquoi? Un, deux, trois sièges à la Chambre des communes qu'on va perdre soit l'année prochaine ou soit dans 10 ans. On a 24 sièges de sénateurs disponibles qu'on pourrait dynamiser en leur donnant une légitimité à la fois démocratique, parce qu'ils pourraient être élus indirectement par l'Assemblée nationale, mais surtout une légitimité par rapport au fédéralisme, en faisant de ses représentants des représentants du Québec dans le Parlement fédéral, nommés par les autorités du Québec, choisis par les autorités du Québec, et ensuite, ce choix serait ratifié par le gouverneur général.
C'est un conseil hardi du prof Taillon, mais on sait que parfois, les conseils du prof Taillon font leur chemin. Je pense à la modification de la Constitution.
Bien, c'est fascinant sur la modification de la Constitution parce que ce qu'Ottawa propose avec sa révision de la carte électorale, c'est un peu l'équivalent de ce que Québec propose dans le projet de loi 96. C'est-à-dire que en révisant la carte électorale, comme il l'a déjà fait dans le passé, le Parlement fédéral joue dans les articles 37, 51 du texte de 1867. Et donc, l'idée que une partie de ce texte peut être modifiée unilatéralement par un ordre de gouvernement, ça n'a rien de nouveau.
Okay.
Le projet de loi 96, parce que le contenu, la manière
qu'est-ce
dont c'est
fait. Articles 37?
Et... Ben, ça parle de la carte électorale. Ça dit qu'on a une Chambre des communes composée de 181 sièges.
OK.
Donc, le chiffre 181, il est prévu dans le texte de 1867.
Mais il est constamment réaménagé par Élections Canada.
C'est ça, parce que dans le carré de sable de la modification, dans les multiples procédures de modification constitutionnelle, il y a un carré de sable qui appartient à Ottawa, qui peut agir seul, et sur le nombre de sièges total à la Chambre des communes, ben Ottawa peut agir.
Deuxième sujet maintenant, il ne nous reste pas beaucoup de temps malheureusement, mais j'aimerais revenir sur la controverse, et toi aussi, tu aimerais revenir sur la controverse du Canadien de Montréal et cette fameuse déclaration avant chaque match du territoire non cédé Mohawk.
Oui,
qu'est-ce que le droit en dit?
Ben, le rapport entre le droit et l'histoire est fascinant.
Oui.
Des fois, il est porteur...
De malentendus?
Non, mais de demi-vérité, c'est-à-dire que les juges ne sont pas nécessairement de très bons historiens, mais des fois, dans le cadre de certains procès, ils vont évaluer une certaine preuve. Ça vaut ce que ça vaut, mais... Pour le plaisir...
Et en droit autochtone, on est toujours dans l'histoire.
Oui. Pour le plaisir de la chose, je me suis intéressé à l'arrêt Côté, rendu en 1996 par la Cour suprême,
oui.
Où on apporte des réponses assez intéressantes à la controverse qu'on a vécue la semaine dernière. Trois points. Le premier, sur ce qu'on pourrait appeler le mystère des Iroquoiens. Oui. Est-ce que, oui ou non, Montréal était peuplé de Mohawks au moment où on va fonder cette ville? Ben, on voit que, selon la Cour suprême, on reprend la thèse des historiens à la suite d'une preuve qu'effectivement, au moment du voyage de Jacques Cartier, il y avait des peuples iroquoiens qui habitaient et qu'ils appellent ça, la Cour suprême, le mystère de la Nouvelle-France. L'un des mystères de l'histoire de la Nouvelle-France.
Les Iroquois semblaient avoir disparu en 1603.
Exactement. Donc, là-dessus, ça ne veut pas dire que c'est la vérité historique, mais la Cour suprême achète la vérité historique avancée par la preuve des historiens.
Okay.
Deuxième point, c'est intéressant de voir comment la Cour suprême, dans cette affaire et dans d'autres, reconnaît la différence entre l'approche coloniale britannique et l'approche coloniale française. Grosso modo, là, l'approche ou le paradigme, si vous préférez, de la Nouvelle-France, c'était celui de l'alliance entre nations souveraines. C'était pas, je dis pas que c'était mieux ou pire, je dis juste que c'était ça l'approche. Alors que les Britanniques...
Il y a la tabagie de Tadoussac de 1603, il y a la grande paix de 1701.
Les Britanniques...
Alors que les Britanniques, eux...
vont arriver avec une approche de fiduciaire, ou si vous préférez, de tutelle. Autrement dit, les peuples autochtones deviennent des sujets de Sa Majesté.
Ah, c'était pas le cas dans
ben non,
au régime français?
Dans le paradigme français de l'Alliance, les peuples autochtones sont des alliés.
Ils sont des peuples.
Donc, il y a une dynamique peut-être d'égalité. Peut-être qu'évidemment, il devait avoir des préjugés, du racisme, etc. Mais il y a un rapport de nation à nation qui est au cœur du rapport autochtone à l'octone sur la Nouvelle-France.
C'est inscrit dans le droit, là.
Exactement. Et ça, la Cour suprême le reconnaît. Elle dit la façon dont les relations étaient organisées, c'était des nations de entre nations souveraines et non pas... Et quand les Britanniques arrivent, ils vont reconnaître des droits autochtones, réserver des terres, mais ça va s'accompagner d'une politique d'assujettissement.
C'est toujours dans l'affaire R contre Côté, ça, en 96.
Entre autres, c'est celle qui m'a évidemment intéressé, surtout aujourd'hui, mais c'est pas la seule, évidemment.
Non.
Donc, on a un rapport de tutelle, d'où le principe qui guide encore le droit constitutionnel canadien aujourd'hui, que la couronne est le fiduciaire des droits des autochtones, qu'il y a le principe d'honneur de la couronne. Donc, une couronne qui serait protectrice de peuples autochtones, mais qui serait désormais des sujets. Et ça sera ma dernière remarque, si le temps le permet.
Oui.
Ça change aussi le rapport à comment le droit britannique intègre la Nouvelle-France dans sa lecture du droit autochtone.
Oui.
Elle va, au fond, dire... Ben, ce qui s'est passé sous la Nouvelle-France, c'est bon pour le droit civil. Le Québec peut garder ses traditions françaises, c'est correct. Ce qui s'est passé avant la conquête, c'est bon pour le droit autochtone. On veut savoir premier contact, les droits ancestraux qui existaient à l'époque. Mais les relations entre les Autochtones et la Nouvelle-France, ça ne nous intéresse pas du tout.
Okay.
Ça ne fait pas du tout partie de notre droit. Parce que, on va dire...
Tout a changé quand même à la
partir
conquête.
Du moment où nous, on a affirmé notre souveraineté...
On adopte le modèle anglais.
Qu'il y ait eu des alliances, des traités... qu'il y ait eu des deals, pardonnez-moi l'anglicisme,
ben oui, non.
entre les peuples autochtones et la Nouvelle-France, ça ne compte pas. Tout ça est comme effacé.
Ah, mais je pensais que la Cour reconnaissait souvent les traités.
Oui, mais justement, ceux conclus entre la couronne britannique, ceux qui ont les
antérieurs à la conquête...
On efface tout ça.
On ne reconnaît pas les traités.
Comme si on repartait à zéro à partir de 1763. Ce qui fait que, c'est fascinant, d'une certaine manière, la Cour suprême donne raison à la preuve historique de la Nouvelle-France sur qu'est-ce qui en était à Montréal à l'époque où on a fondé Montréal. Mais en même temps, la preuve historique qui a peut-être eu non pas des cessions de territoire, c'est pas comme ça que fonctionnait la Nouvelle-France, mais une forme de reconnaissance mutuelle de l'occupation du territoire par chacun. Ça ne compte pas, parce que tout ce droit territorial de l'époque de la Nouvelle-France est en quelque sorte, là, on remet le compteur à zéro en 1763 et on repart en neuf.
Je reviens sur la raison pour laquelle on parle de ça. Est-ce que ça veut dire tout ce qu'on vient de dire là, que le Canadien ne devrait pas parler ou admettre qu'on est sur des territoires non cédés?
je pense que le rectificatif, en tout cas, est très salutaire. C'est-à-dire la nouvelle formule qui veut que Montréal a toujours été un lieu de rencontre. Dire que les peuples autochtones étaient des peuples premiers qui étaient là avant l'arrivée des colons européens, ça, je pense que ça pose aucun problème. Mais il ne fallait pas tomber. Je pense que c'était une erreur de tomber dans une approche de post-vérité qui voudrait qu'une nation particulière, alors qu'elle n'y était pas, je pense que ça, c'est trop controversé. La nouvelle formule me semble plus appropriée.
Merci infiniment, Patrick Taillon, pour cette stimulante chronique encore une fois. Donc, je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, le professeur de droit à l'Université de Laval. Et c'est tout pour La Hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain.
Cube Radio.